Bienvenue à toutes et tous, merci d'être venus pour cette nouvelle séance de lien des sciences sociales. Donc aujourd'hui, nous recevons Audrey Mariette pour nous parler du livre de Julien Duval qui s'appelle Le cinéma au XXe siècle, entre loi du marché et règles de l'art.
Alors, déjà merci aux organisateurs du séminaire de m'avoir proposé de lire cet ouvrage de Julien. C'est une lecture que je voulais faire, donc ça m'a donné l'opportunité de prendre le temps de la faire. Et notamment, je vais juste préciser ça en début, notamment je voulais le lire dans le cadre de deux groupes de travail auxquels je participe, un qui s'appelle Travelling, avec Laure de Verdal et Karim Amou et Nicolas Robette, où on travaille sur les premiers films et les carrières de réalisateurs dans le cinéma français. Depuis quelques temps maintenant, on avance doucement, mais bon, à partir d'une base, au départ d'une base du CNC qu'on a complétée ensuite, et je l'évoquerai rapidement tout à l'heure, c'est pour ça que je le précise. Et puis aussi dans le cadre d'un PIX qui s'appelle Transnational Hollywood, qui est coordonné pour la partie française par Violaine Roussel, où il y a plusieurs chercheurs qui travaillent sur, et chercheuses qui travaillent sur le cinéma qui participent, et où on s'interroge avec Laure de Verdal aussi sur les passages entre espaces nationaux, entre France et États-Unis, notamment les réalisateurs français qui vont faire un séjour plus ou moins long aux États-Unis. Et du coup, il y a des éléments aussi dans ton ouvrage sur ces questions de transfert, de circulation qui sont vraiment intéressants. Et je vais rajouter un dernier point, puisque je sors de cours, c'est que c'est aussi un ouvrage que, ça je m'y attendais, enfin voilà, c'était une très bonne surprise, c'est un ouvrage qui peut vraiment être très très utile pédagogiquement, je trouve, à la fois pour expliquer ce qu'est la sociologie bourdieusienne et lutter contre des manières un peu réductrices de la présenter. Voilà, moi j'ai pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui travaillent sur les rapports entre art et politique et qui du coup essayent de retracer des trajectoires de réalisateurs et de réalisatrices, et je trouve que tu as des très bons exemples des manières sociologiques d'approcher les carrières de réalisateurs qui peuvent être données à lire à des étudiants et des étudiantes. Alors je vais assez classiquement commencer par présenter l'objet et la question de recherche qui guide cet ouvrage, à savoir donc la manière dont s'est structuré et est structuré l'espace cinématographique à une échelle nationale et internationale en France et aux États-Unis principalement, avec cette opposition entre un marché restreint et un marché élargi. Après, je reviendrai sur les sources et les méthodes que tu utilises qui constitue aussi un des apports de cet ouvrage. Dans un troisième temps, je reviendrai sur les résultats, les réponses donc apportées à la question posée, en reprenant en gros les grandes lignes de ta démonstration, qui est basée sur quatre chapitres. Et puis, je ferai un dernier point sur les apports théoriques en termes donc, de sociologie bourdieusienne dans laquelle tu t'inscris, une sociologie donc, des rapports de domination qui peut vraiment être utile au-delà du seul cas des champs de production culturelle. Et donc, voilà, j'intégrerai trois séries de questions dans la discussion. Alors, sur la question de recherche, à savoir donc la structure bipolaire qui est un fil conducteur, et derrière ce fil conducteur de l'ouvrage, en fait, la question de l'autonomisation relative d'un champ de production culturelle. Donc ce livre, il s'inscrit dans une série de livres qui existent, d'ouvrages sur l'histoire du cinéma, et qui d'ailleurs relèvent de différentes disciplines, en esthétique, en cinéma, en histoire, en économie notamment. Hein. Tu cites par exemple l'histoire économique du cinéma français de Pierre-Jean Bengosi et de Christian Delage, qui apportent un regard croisé, des regards croisés franco-américains. Mais de fait, il existe assez peu de travaux sur l'histoire du cinéma dans une perspective sociologique. Celle que j'ai beaucoup mobilisée, c'était celle de Yann Daré, qui était parue en 2000 à la découverte l'histoire sociale du cinéma français. Et ici, dans ton livre, donc, qui porte sur le cinéma essentiellement donc, français et états-unien depuis les années 1910, tu fais pas tant au final une histoire du cinéma qu'une sociologie du cinéma, et plus exactement une sociologie du champ cinématographique, qui intègre donc une forte dimension historique et aussi une dimension économique. Et d'ailleurs, ici, puisque tu cites, tu reprends en partie des articles que tu avais publiés antérieurement, hein, je enfin voilà, il y a notamment ta critique d'une analyse économique du cinéma qu'on peut aussi avoir en tête quand on lit cet ouvrage, qui apporte donc un éclairage sociologique. Alors, dans l'introduction, tu insistes sur le fait qu'il s'agit d'analyser le cinéma comme un champ de production culturelle, et tu soulignes l'intérêt de ce concept pour étudier cet espace et ses transformations dans le temps. Tu soulignes que ça permet notamment d'éviter des catégories qui sont mal définies, notamment celles de culture populaire, de culture commerciale, culture de masse, qui sont en partie, alors peut-être pas fausses, mais en tout cas qui sont questionnées par une dimension aussi élitiste du cinéma, sur laquelle on va revenir. Et donc tu prends le cas de ce champ de production culturelle récent, le cinéma, qui est marqué donc par une structure bipolaire, une opposition entre art pour l'art et commerce pour le dire vite, qui s'est mise en place progressivement, comme tu l'expliques, dès les années 1910 aux États-Unis et en Europe. Ce champ de production culturelle, pour le définir aussi, et tu reviens là-dessus dans ton introduction, il est relativement dominé au sein des hiérarchies culturelles, ce qui te permet d'ailleurs, il est relativement dominé et aussi récent, je l'ai dit, mais ce qui te permet du coup d'avoir aussi des outils d'objectivation qui peuvent être plus difficiles à avoir sur d'autres champs de production culturelle, sur lesquels il y a eu des travaux par ailleurs, basés sur des archives, donc des champs de production culturelle plus anciens et plus légitimes. Et ça c'est un des points sur lequel je reviendrai dans le point 2 sur la méthode, l'abondance de chiffres qu'on peut avoir via notamment le CNC dans les dernières décennies peut être trompeux, cette abondance de chiffres, parce que ça pose aussi des questions de comparaison dans le temps et de qu'est-ce qu'on peut faire de cette augmentation de données, et de cette hétérogénéité aussi des données, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc le fil conducteur de l'ouvrage, c'est celui de la structure dualiste des champs de production culturelle, souvent donc présentée de manière schématique par cette opposition entre la loi du marché et les règles de l'art, pour reprendre le sous-titre de ton ouvrage, qui renvoie donc à ce monde économique à l'envers, tel que l'a défini Bourdieu. Le cas du cinéma, on voit un rôle central de l'État, notamment via des systèmes comme l'avance sur recette. Donc tu poses cette question: comment cette structure bipolaire s'est formée au cinéma, comment elle a évolué, et tu soulignes que les frontières sont plus floues qu'on peut le penser d'abord, surtout si on adopte une perspective sur du temps long. Derrière ce fil conducteur, ta question de recherche, c'est celle de la légitimation du cinéma comme art et de l'autonomie, en tout cas du processus d'autonomisation au sein de ce champ cinématographique. Et donc je te cite page 20, tu soulignes: c'est dans une analyse du cinéma comme champ de production culturelle que l'on peut trouver des éléments de réponse aux questions, presque solidaires l'une de l'autre, des conditions, notamment économiques, d'une autonomie relative au cinéma et de la légitimation de ce dernier. Alors tu reviens aussi en introduction sur le fait que cette légitimation du cinéma comme art, elle peut ne pas être totale. Et je trouve que c'est vraiment un élément fort sur la question des degrés, et des différents degrés de légitimation et donc d'autonomisation des espaces sociaux, et donc aussi des processus de va-et-vient dans le temps. Sachant que, tu y reviens dessus en conclusion, la force des contraintes économiques, elle est particulièrement importante par rapport à d'autres champs de production culturelle, pour souligner une des spécificités de cet espace. Et de fait, tu soulignes la dimension nécessairement comparative de ta démarche, puisque la caractéristique fondamentale des champs de production culturelle, elle tient à l'autonomie relative, qui est plus ou moins prononcée selon les cas, de l'ordre symbolique par rapport à l'ordre matériel et économique. C'est là aussi une citation de la page 20. En conclusion, tu reviens sur cette autonomie du cinéma qui reste problématique, pour reprendre tes termes, et qui a une légitimité culturelle fragile, qui reste, autrement dit, un art moyen. Et dans le même temps, si c'est un art qui est moins élitiste que d'autres, comme le théâtre par exemple, il a néanmoins des points communs avec des arts plus anciens. Autrement dit, il a certaines propriétés des arts savants, ce qui là aussi une reprise enfin une formule que tu utilises. Alors pour répondre à cette question, tu adoptes un plan en quatre chapitres. Tu pars en fait de l'état du chant dans les années 2000 à partir de l'espace des réalisateurs français et d'une comparaison avec l'espace des films, cette fois états-uniens, dans les années 2010. Donc dans ton chapitre 1, cet état du chant, il s'explique par l'histoire des luttes entre agents et c'est ce qui te conduit aux deux chapitres suivants. Sur l'histoire de la légitimation du cinéma comme art. Donc le chapitre 2, il est consacré aux origines de la structure dualiste dans les années 1910-1920 aux États-Unis et en France, avec des aspirations naissantes à l'autonomie, qui peinent à s'institutionnaliser, comme tu le dis. Et puis ensuite, le chapitre 3 est dédié à la période qui va des années 1930 aux années 1960, 70, comme période de jonction avec la période contemporaine, à savoir donc le processus de légitimation et l'émergence d'une structure dualiste se ralentit un peu dans les années 1930-1940, puis se redéveloppe fortement après-guerre avec l'extension du public scolarisé. Et pendant cette période, le marché restreint va connaître une expansion. Ce qui s'explique d'ailleurs, tu le soulignes, par des conditions, et on y reviendra, des conditions objectives et des stratégies de réalisateurs-auteurs en France, mais aussi aux États-Unis. Et après ce détour socio-historique, tu vas revenir sur les évolutions des 30-40 dernières années, donc depuis les années 1970-80, pour comprendre les transformations en cours, et en l'occurrence, la restriction du marché restreint et l'élargissement du marché élargi, donc une accentuation de la bipolarisation au sein de cet espace. Et au final, tu montres des oscillations et des permanences dans le même temps, notamment la continuité au sein des firmes hollywoodiennes et de leur poids sur les marchés nord-américains et européens. Et tu soulignes d'ailleurs en conclusion que, je te cite, si des transferts entre les régions opposées du champ sont toujours possibles, c'est à des conditions étroitement fixées par la région la plus commerciale en position de force. Donc voilà pour la présentation à la fois de la question de recherche et puis des premiers éléments sur la manière dont tu y réponds. Je reviendrai après sur les différents chapitres. Parce que j'ai trouvé ça compliqué d'adopter une autre structure que celle que tu as retenue. J'ai essayé, mais je n'ai pas trop réussi. Je passe au deuxième point sur les questions de méthode. Donc, c'est une enquête qui articule à la fois des données quantitatives et des données qualitatives à différentes échelles. Et c'est de ce point de vue-là que je trouve qu'il y a une dimension pédagogique intéressante, une réflexion constante sur les sources et leurs limites. Et on voit du coup se dessiner à la fois la force de l'objectivation par les statistiques de certains phénomènes, alors qui des fois vont dans le sens de discours dominant au sein de la profession et du secteur, et qui des fois s'y opposent. Et en même temps, on voit aussi la limite de ces sources. Et l'intérêt d'articuler les deux, hein, ce qui est quelque chose de classique, mais qui n'est pas si souvent fait que ça. Voilà. Alors, tu mobilises du coup différentes méthodes statistiques, à commencer notamment par des analyses de correspondance dont tu es spécialiste, sur les réalisateurs et sur les films. Ça te permet d'objectiver hein, cet espace et la manière dont il se structure. Mais en même temps, il y a toute une série de données statistiques. Alors, j'y reviendrai dans la présentation des chapitres, donc je ne vais pas en faire la liste ici. Et puis, il y a une liste à la fin de l'ouvrage des tableaux et des graphiques. Mais du coup, il y a aussi tu opères aussi des comptages, des statistiques descriptives qui sont extrêmement intéressantes. Je vais juste donner un exemple, mais par exemple, dans ton ouvrage, tu reviens beaucoup sur la question des catégories floues, des catégories indigènes mal définies, et on voit bien comment quelques comptages en prenant à des dates différentes permettent d'objectiver les choses. Je pense à l'exemple de tes comptages de l'apparition du terme blockbuster dans le monde, qui en quelques chiffres illustre et permet d'objectiver l'imposition forte de ce terme dans les dernières décennies. Autre exemple aussi, pour étudier les liens entre capital économique et symbolique pour les films primés en festival, tu compares les entrées en salle des films qui ont obtenu la Palme d'Or à Cannes. Et voilà, enfin, je trouve que c'est assez malin d'avoir ce genre de démarche qui permettent, parce qu'on s'interroge souvent, enfin, nous dans le travelling, on a eu beaucoup de discussions sur cette question des festivals et des effets des festivals en termes de capital symbolique, de capital économique. Voilà, du coup, ça permet de rappeler qu'il y a des comptages qui ne sont pas forcément toujours simples à faire, hein, d'ailleurs, en termes de sources, mais en tout cas qui permettent vraiment d'objectiver les choses. Alors, ces données quantitatives, elles sont articulées à un matériau qualitatif qui porte principalement, enfin, qui porte beaucoup sur les trajectoires des réalisateurs. Là aussi, hein, tu as des outils d'objectivation avec des tableaux sur les origines sociales d'une partie de réalisateurs qui sont extrêmement intéressants et qui permettent aussi de voir des mises en série et très parlante. Et donc, pour travailler sur ces trajectoires de réalisateurs, hein, tu t'appuies beaucoup sur des sources très variées, d'ailleurs, de première main, dont des sources journalistiques, et aussi des sources de seconde main à partir de travaux qui ont été faits dans d'autres disciplines ou en sociologie. Tu travailles aussi sur des trajectoires de films par moment, où on voit bien là aussi l'intérêt de croiser des analyses internes des œuvres et externes sur les conditions de production, même si sur la question de l'analyse interne, tu évoques notamment les questions d'homologie entre les personnages représentés dans le cinéma et les personnes qui les réalisent, donc les réalisateurs en l'occurrence. Mais c'est vrai que le contenu des films finalement n'est pas si présent que ça. Je ne l'ai pas rajouté dans les questions, mais je ne sais pas si tu as quelque chose à en dire. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même cette articulation entre analyse interne et externe. Et tu soulignes à plusieurs reprises la nécessité de contextualiser à chaque fois une trajectoire de réalisateur, une production, enfin, de prendre en compte l'espace des possibles. Et tu l'appliques, et ce qui est particulièrement parlant pour comprendre de manière sociologique des trajectoires de réalisateurs qu'on connaît par ailleurs, présentées sous des formes très différentes. Et d'ailleurs, tu le dis, page 83, hein, tu soulignes que les œuvres canonisées sont peu étudiées sociologiquement. Donc du côté des agents étudiés, je l'ai souligné, ce sont les réalisateurs qui sont vraiment au centre de ton ouvrage, hein, tu parles à plusieurs reprises de producteurs culturels, donc ce sont ces réalisateurs, mais sont également présents les producteurs, des producteurs en tout cas, les critiques également, avec quelques cas de trajectoire de critiques, et puis aussi des agents sous d'autres formes, donc les festivals et les chaînes de télévision aussi, j'y reviendrai. Donc encore une fois, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais tu t'intègres vraiment systématiquement dans l'ouvrage et au fur et à mesure que tu mobilises des données et des méthodes statistiques notamment, des remarques sur les limites de ces données et de leur construction, et aussi sur les effets sur la construction de ton objet. Et d'ailleurs, je trouvais ça assez honnête et intéressant de justifier le plan de ton livre, en partie sur des questions de méthode et de source, et avec un argument assez contre-intuitif, en tout cas pour moi, à savoir que tu soulignes que c'est plus simple de travailler sur les données sur les années antérieures aux 30-40 dernières années, donc des années 1910 aux années 1960. Que c'est plus simple, que l'accès aux données sur le passé est plus simple et plus complet d'une certaine manière. Alors tu soulignes plus loin dans les chapitres, parce que ça tu le dis en introduction, qu'il y a un manque de recul sur les données les plus récentes. Et puis tu rappelles aussi, hein, ce problème de comparaison dans le temps, sachant qu'il y a des manières de mesurer qui évoluent et donc qui rendent les comparaisons difficiles. Il y a aussi les problèmes de comparaison d'un pays à l'autre qui se posent concrètement, même si tu apportes en partie des solutions. Et de ce point de vue-là, tu rappelles aussi, je pense que c'est un élément important à souligner, que le cinéma est aussi vu comme populaire et comme une pratique interclassiste, en partie en raison de la pauvreté des sources statistiques, notamment celles qui portent donc sur les sorties du cinéma et qui ne distinguent pas finement quel type de film va avoir quel public, mais aussi et surtout, pas surtout, mais aussi comment les publics peuvent aller voir le même film mais ne pas du tout en avoir la même réflexion et la même lecture. Et du coup, c'est un élément très important dans ton livre sur les films polyphoniques. Je vais y revenir tout à l'heure dans la présentation des différents chapitres. Donc du coup, ma première série de questions, c'est est-ce que tu pourrais, puis tu choisiras celle que tu préfères, mais est-ce que tu pourrais revenir sur cette question des sources, notamment des problèmes posés par les sources sur la période la plus récente, même si avec Travelling, je vois un peu les questions qui peuvent se poser concrètement. Et puis aussi, autant ton livre est vraiment une leçon de méthode, je trouve, autant tu ne dis rien de ton rapport à l'objet et de la manière dont il a contribué à construire cet objet dans ta trajectoire. Et donc, si tu pouvais revenir un peu sur comment t'en es venu à travailler sur le champ cinématographique après tes premiers travaux sur un autre espace et champ de production culturelle. Je pense notamment à ton article de 2006 et puis plus largement dans Actes de la revue dans Actes de la recherche en sciences sociales, enfin dans Actes, ça sera plus simple, que tu avais coordonné avec Philippe Marie, mais qui intégrait déjà cette question de la légitimation dans l'ensemble du numéro, en fait, qui portait sur l'espace cinématographique dans les années 2000 en France, mais qui intégrait déjà sur l'ensemble du numéro cette question de la légitimation du cinéma comme art. Puis l'articulation avec ton habilitation à diriger des recherches qui porte aussi sur ces questions. Enfin voilà, c'était une question que je me posais. Et puis, de ce point de vue-là, de manière un peu plus générale, c'est vrai que tu soulignes que les fractions des classes supérieures, et notamment celles qui disposent d'un capital culturel important, ont un rapport cultivé au cinéma. Et de fait, les sociologues qui ont travaillé sur le cinéma et d'autres, il y a d'autres exemples qui seraient mobilisables au-delà du seul cas du cinéma, mais ont tendance et eu tendance à travailler sur le cinéma d'auteur, sur donc ce pôle de l'art pour l'art, plutôt que sur le cinéma dit commercial, même si, alors de ce point de vue-là, il y a des évolutions en cours et qui, je pense, sont aussi à mettre en lien avec ce que tu dis à la fin de l'ouvrage sur l'évolution des générations et du rapport au cinéma dans les générations. De fait, il y a un peu une focalisation, en tout cas en France, des travaux sur ce cinéma d'auteur qui fait qu'on connaît aussi moins bien le cinéma commercial. Et de ce point de vue-là, je trouve que ton ouvrage est vraiment une invitation, puisque toi, tu t'attaques à cette question-là, une invitation à développer les travaux sur ce cinéma commercial et sur les publics qui vont voir ces films rattachés à ce pôle-là. Voilà, et il me semblait qu'on pouvait à la fois expliquer l'attrait et l'attirance des sociologues pour le cinéma d'auteur et pour développer des travaux sur le cinéma d'auteur. Ça s'explique sociologiquement assez facilement, mais dans le même temps, il y a aussi une question de méthode qui se pose et d'accès, c'est-à-dire que les réseaux sur lesquels on peut s'appuyer pour intégrer et travailler sur le cinéma sont souvent plus nombreux sur le cinéma d'auteur, que sur le cinéma commercial, et donc il y a aussi cette question qui se pose très concrètement d'accès au terrain. Ça, je vais passer parce que sinon ça va être trop long. Donc j'en viens au troisième point pour rentrer un peu dans le détail des chapitres, puisque l'idée du séminaire, c'est de présenter les ouvrages un peu dans le détail, donc sur ta démonstration. Et donc sur cette bipolarité constitutive du champ, mais qui a des frontières mouvantes, et donc sur l'histoire de la légitimation du cinéma comme art, qui montre des degrés différents d'autonomisation. Alors, d'abord le premier chapitre, donc tu pars dans ton chapitre 1, je l'ai dit tout à l'heure un peu vite, d'une comparaison entre deux champs cinématographiques nationaux, en intégrant l'articulation à l'espace international, ce qui revient d'ailleurs au fil de l'ouvrage et ce qui est une dimension que je trouve vraiment très intéressante, notamment sur les questions de rapport d'homologie entre ces échelles nationales et internationales. Et donc tu pars notamment du champ français, la France occupant une position particulière au sein de l'espace cinématographique international avec la défense de l'exception culturelle contre les États-Unis. Et donc tu compares ce champ français au champ états-unien. Donc sur le champ cinématographique français dans les années 2000, donc tu pars de l'espace des réalisateurs en soulignant la limite de partir des réalisateurs, enfin tu reviens sur ces questions de méthode, et tu montres ici qu'il présente une structure chiasmatique opposant donc un pôle économique à un pôle symbolique, ce qui est le propre des champs où le degré d'autonomie est relativement élevé. Et tu soulignes que dans cet espace bipolaire, le principe de différenciation majeure, c'est le fait de posséder ou de ne pas posséder les attributs les plus prisés, avec un rôle très important du capital médiatique. Et tu observes ici, enfin c'était déjà l'apport, moi je trouvais très intéressant, que j'ai repris beaucoup sur de ton article dans Act, un continuum de position entre les deux pôles économiques et symboliques, avec une région intermédiaire qui subit les influences, donc de ces, qui subit simultanément les influences de ces deux pôles. Et ensuite, donc sur le cas états-unien, tu travailles donc là sur l'espace des films, tu montres donc que l'axe déterminant, tu soulignes qu'il y a à la fois des proximités et des différences entre le champ français et le champ états-unien, mais tu soulignes ici donc, que l'axe déterminant, c'est l'opposition art-commerce, et que du coup, il n'y a pas de propriété moyenne dans l'espace des films états-uniens, ce que tu expliques par le poids des grosses compagnies. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, tu reviens sur l'intrication du coup entre ces champs nationaux et le champ international, et tu soulignes que l'émergence de la structure dualiste et son institutionnalisation, elle s'est faite à des moments différents selon les espaces nationaux, au-delà d'ailleurs du cas français et états-unien, puisque tu traites d'autres cas sur lesquels on va revenir, enfin tu reviens dans les chapitres suivants, mais tu soulignes, dans le même temps, tu soulignes qu'il y a une spécialisation internationale durable, avec une domination donc, des États-Unis sur les pays européens qui se sont spécialisés sur le marché restreint. Donc sur cette intrication en gros entre champs nationaux et espace international au niveau du cinéma. Et tu vas montrer justement dans les chapitres suivants, tu vas t'atteler à montrer la complexité, les ambiguïtés des liens entre ces deux pôles économiques et symboliques, commerciales et artistiques, avec donc des frontières plus floues qu'il n'y paraît et des frontières aussi mouvantes dans le temps. Alors, d'où vient cette structure dualiste et cette relative autonomisation, même si elle reste fragile, mais ta démonstration générale, c'est quand même de montrer qu'il y a une accentuation de la bipolarisation. Alors, tu nous dis que ses origines, elles se trouvent dans la période fondatrice des années 1910-1920, et qu'elles... parce que justement, à cette période-là, on a un début de diversification du public. En gros, le cinéma ne va plus être vu que par des ouvriers. Alors, tu entres dans cette histoire par l'émergence de la notion de mise en scène aux États-Unis dans les années 1910, en faisant une analyse comparée des trajectoires de Griffiths et de Chaplin, qui sont tous deux autodidactes, venus du théâtre et du music-hall, qui connaissent en 1915 un gros succès qui attire à la fois un public populaire et un public intellectuel. Et du coup, tu montres comment ils participent à la formation d'un public restreint en affirmant la spécificité du cinéma, à savoir la mise en scène et l'intérêt pour l'innovation, chez Griffiths notamment, qui développe cette notion, contrairement au cas de la France d'ailleurs, où le cinéma est d'abord légitimé en s'appuyant sur la littérature, donc plus largement sur des arts plus nobles. Et donc tu montres ici pour le cas états-unien que ces deux réalisateurs vont devenir leurs propres producteurs au moment où les studios refusent de les financer, sans être pour autant indifférents au succès économique. Et donc tu parles d'un double magistère commercial et artistique. Donc on voit déjà, l'entrée dans cette histoire montre déjà ces relations ambiguës entre les deux pôles. Alors l'excellence artistique, elle va ensuite se développer en Europe, notamment en France, en Allemagne et aussi en Russie, dans les années 1920, où on a différents réalisateurs européens qui vont poursuivre le processus d'autonomisation qui a débuté aux États-Unis, en entretenant d'ailleurs un rapport ambivalent à Griffiths et à Chaplin, dont ils se distinguent socialement. Et donc là, tu expliques que loin d'être des autodidactes, ces réalisateurs sont d'origine bourgeoise, ces réalisateurs européens sont d'origine bourgeoise, ils sont familiers de la culture légitime. En même temps, tu poses dans les deux cas l'hypothèse d'un choix par défaut du cinéma et d'une conversion qui est liée à un échec dans des arts plus légitimes, enfin dans le cas des États-Unis comme dans le cas des réalisateurs européens. Et donc tu expliques que ces réalisateurs vont théoriser et construire dans ces années 1920 puis 1930 le cinéma commercial comme repoussoir. Donc on a déjà, dès ces années-là, cette figure du cinéma commercial repoussoir. En revanche, et donc c'est vraiment intéressant la finesse de l'analyse, je trouve, tu soulignes que s'il y a une rupture objective avec le grand public, les films de ces réalisateurs européens sont très peu vus, dans le même temps, cette rupture, elle n'est pas forcément subjective au sens d'assumer par les réalisateurs qui ont une volonté d'avoir du succès. Et tu dis donc en conclusion du chapitre qu'il n'y a pas de coupure avec Hollywood, mais bien une relation ambivalente, sachant que la structuration de l'espace international marquée par la domination économique des États-Unis, elle se met en place dans ces années 1920, et donc au moment même où avance la bipolarisation des différents espaces nationaux, dans des temporalités différentes. Je vais donner du coup des exemples de ces réalisateurs européens parce que j'en ai pas cité, mais pour comprendre comment ces films peu vus est devenu des références dans l'histoire canonique du cinéma, comment ces films donc sont devenus des références dans l'histoire canonique du cinéma, tu vas étudier les configurations qui les ont rendus possibles, en gros comment ils ont pu être financés très concrètement. Et dans le cas de l'Allemagne et de la Russie, tu montres que les fonds importants qui sont mis donc à cette période, dans ces années 1920, au service d'entreprises avant-gardistes, elles sont liées à des interventions étatiques. Importance du rôle de l'État. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'aurai pas le temps, mais dans le cas allemand, c'est la UFAC, dans les années 1920, qui est une firme puissante et atypique, qui au départ est créée par l'État, pour aller vite, qui va produire donc, différents types de films, dont ceux de Murnau et de Lang, donnant donc, une autonomie et en permettant d'avoir une autonomie relative à ses réalisateurs. Et en Russie, c'est la nationalisation du secteur cinématographique après 1919 qui va permettre à Eisenstein de financer ses films. Et tu le soulignes, ce cinéma artistique, loué par la critique, ne va pas durer. Et cette brève indépendance ne s'oppose pas par ailleurs à l'espoir d'un succès public, espoir qui explique d'ailleurs qu'ils aient été financés. Dans le cas de la France, les choses sont un peu différentes, donc pour les années 1920, puisque tu soulignes que dans le cas français, c'est le microcosme avant-gardiste parisien, autour d'écrivains et de critiques, qui va expliquer le développement d'un monde cinéphile, avec comme symbole Vigo. Donc c'est une période où on a des salles spécialisées qui se développent à Paris, qui diffusent des films expérimentaux, qui sont vus par ces réalisateurs. Pour revenir sur la question du financement, ces réalisateurs ont un capital économique hérité à l'image de Renoir, ou alors vont avoir recours, comme les avant-gardes littéraires, à la pratique du mécénat. Donc voilà pour ces années 1910-1920, et donc le tournant des années 1920-1930, il va y avoir un tournant dans ces années, entre les années 1920 et 1930, avec l'arrivée du parlant notamment, qui vont changer la donne, qui vont être aussi une période où les pouvoirs publics vont intervenir pour défendre le cinéma dit de qualité et protéger l'industrie nationale. On passe donc à la période suivante, les années 1930-1960, avec donc cette démonstration générale qui est l'élargissement du marché restreint. Donc l'émergence d'une structure dualiste avec un marché restreint, un marché élargi, ne signifie pas, comme tu le soulignes, qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Donc on retrouve cette idée. Dans les deux cas, la question du réalisme économique, elle se pose. Et par ailleurs, les réalisateurs hollywoodiens vont être reconnus par les critiques européens. Et tu insistes beaucoup, en gros, sur ces cas, en fait, de réalisateurs hollywoodiens qui réalisent des films reconnus par ces critiques européens qui défendent le cinéma comme art, puisque ça montre, en gros, l'ambiguïté des relations entre les deux pôles. Alors, en France, dans les années 30 et après la Deuxième Guerre mondiale, hein, tu insistes sur le développement du mouvement des ciné-clubs, l'augmentation des diplômés va permettre justement l'élargissement du public d'un cinéma qui se dit non commercial. Donc en gros, ça va favoriser le commerce d'un cinéma dit et qui se définit comme non commercial. Mais tu insistes ici, et je pense que c'est un des éléments importants dans ce chapitre, sur le fait et dans la démonstration générale, sur le fait que la clientèle de ce marché restreint, elle est hétérogène et qu'il ne s'agit pas non plus de l'homogénéiser. Du côté des États-Unis, tu pars pour cette période des caractéristiques sociales des fondateurs des compagnies comme Paramount et Universal, donc des grosses compagnies. Et là, tu soulignes, alors je donne quelques éléments rapidement, mais parce que je trouve que c'est intéressant aussi cette question de, enfin voilà, ces matériaux qualitatifs sur les trajectoires des acteurs qui produisent et font le cinéma. Donc là, tu soulignes que les fondateurs de compagnies viennent du commerce de vêtements et de tissus, donc sont souvent juifs, immigrés récents, qui n'ont pas fait d'études longues, et que du coup ils vont se distinguer de producteurs qui ont des profils plus intellectuels et plus artistiques, notamment dans les compagnies de moindre importance économique, comme la MGM. Qui vont tenter de jouer sur le versant prestige, d'ailleurs, ces compagnies de moindre importance économique. Dans ce système donc hollywoodien, le réalisateur n'est pas central, mais là aussi tu nuances en disant qu'il va y avoir des évolutions, notamment sur la période étudiée, et donc dans ce système, les verdicts économiques sont décisifs. Tu reviens ici sur la trajectoire de réalisateurs qui ont justement des caractéristiques sociales proches de ces producteurs, donc notamment Ford et Hitchcock, de ces producteurs, donc des grandes compagnies hollywoodiennes. Et donc on a toujours, enfin j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a vraiment toujours cette réflexion en termes d'homologie dans les différents, enfin entre les différents, enfin à différentes échelles. Mais donc voilà, ce système hollywoodien où le réalisateur n'est pas central, la figure du réalisateur n'est pas centrale, c'est un exécutant, où les verdicts économiques sont décisifs. Dans le même temps, tu nous dis que ces producteurs, ils sont aussi, et ça s'explique du coup par leurs origines sociales, dans une logique de recherche d'ascension sociale par le cinéma qui va contribuer au processus de légitimation du cinéma et donc qui va aussi passer par la recherche de reconnaissance symbolique. Et tu soulignes ici que dans les années 1930-1950, les mêmes sociétés vont cumuler les deux grands types de capitaux, économiques et symboliques. Tu prends le cas d'ailleurs des Oscars, marques de prestige, et en même temps qui sont relativement faiblement autonomisées, puisqu'ils permettent des retombées économiques pour les films, ce qui reflète là encore cette idée de position, de relation ambiguë entre les pôles et de position ambiguë. Alors les liens entre le monde hollywoodien et le marché restreint, ils vont passer, tu le soulignes, par des individus qui vont jouer le rôle d'intermédiaires. Et donc ici, je trouve que c'est aussi un élément intéressant de voir concrètement, parce que dire qu'il y a des relations ambiguës entre les pôles, c'est aussi intéressant de souligner comment ça se joue concrètement. Et là, donc, tu montres le rôle d'individus qui jouent le rôle d'intermédiaires, donc qui voient les films des réalisateurs européens, donc qui voient ces films européens avant-gardistes, etc. Et qui du coup vont participer à introduire les hiérarchies propres au marché restreint au sein donc de ce système états-unien et hollywoodien. Dans les années 1950, les aspirations à l'autonomie et les relations avec le marché restreint vont d'ailleurs donc se développer à Hollywood, même si elles existaient avant et qu'elles restaient quand même assez marginales. Et donc tu soulignes ici que ça va passer par une nouvelle génération de réalisateurs. Dans ton analyse, on a aussi cette question récurrente des générations et des évolutions de générations, la question de comment ils sont formés, etc., qui revient et qui permet aussi d'expliquer les évolutions que tu observes. Et donc, de fait, là, tu soulignes que l'arrêt essai est en expansion en lien avec le développement des études universitaires et aussi du fait de la concurrence introduite par l'arrivée de la télévision qui va faire baisser la fréquentation des salles et qui va donc modifier la structure sociale du public, puisque donc le poids relatif du marché restreint va augmenter par rapport au marché élargi. Et c'est donc à cette période, des années 1950-1960, que en France, on a aussi donc l'émergence du cinéma d'auteur, avec l'extension là aussi des diplômés, avec le développement d'une audience parisienne, qui a des répercussions aux États-Unis. Donc tu dis par exemple, je vais en donner juste un exemple, mais les compagnies financent Godard, donc ça donne un exemple un peu de ces relations aussi. Notamment, tu reviens dans ce chapitre et puis aussi dans le suivant sur le nouvel Hollywood, avec des réalisateurs comme Coppola, issus de familles à capital culturel ou artistique, et qui ont suivi des études universitaires. Donc on voit constamment, tu dessines dans ces groupes, ceux qui ont un rapport cultivé au cinéma, en l'expliquant par leurs origines sociales. Et contre l'hypothèse qui peut être avancée d'artistes naïfs qui ont fait des œuvres commerciales qui sont ensuite reconnues au pôle de l'art pour l'art, tu insistes sur le fait que ces films, ce que je disais tout à l'heure, sont polyphoniques et que du coup, ils ont du succès sur le marché restreint et élargi. En tout cas, ils peuvent avoir du succès sur le marché restreint et élargi, mais pour des raisons différentes. De fait, tu soulignes ici que l'œuvre pure est impossible, et pas seulement au sein du sous-espace hollywoodien, en soulignant ici les logiques de faire de nécessité vertu, où des innovations esthétiques sont aussi liées à des questions et à des enjeux économiques. Alors du côté de la France, puisque dans ton ouvrage à chaque fois tu fais le va-et-vient entre la France et les États-Unis, plus en intégrant la question de l'échelle internationale, il y a un recours au mécénat privé pour échapper donc à ces contraintes économiques, mais tu le soulignes, c'est des cas qui sont rares et éphémères, et en fait, et je trouve que c'est un point important de la démonstration, tu montres comment il y a un système de mutualisation qui se met en place avec des sociétés de production qui sont bénéficiaires et qui vont pouvoir financer ces films donc d'auteurs, qui s'appellent d'auteurs avec donc la nouvelle vague, etc. Et ici, tu t'opères en fait des comparaisons entre les échelles, en disant il y a des sociétés de production qui du coup sont encore une fois dans des positions ambiguës entre les deux pôles et qui peuvent produire différents types de films, mais tu soulignes aussi que cette mutualisation, ces formes d'alternance d'un film à l'autre, elles se retrouvent aussi au sein même de la trajectoire de certains réalisateurs, c'est le cas de Truffaut par exemple, et aussi que ça peut passer par des accords entre des réalisateurs et des sociétés de production sur des types de financement de différents films. Et ici, ça pose la question des appariements, ça donne aussi des éléments, je trouve, sur la question des appariements qui sont intéressants. Au final, et je te cite ces pages 176, l'œuvre d'un cinéaste, en un sens, tend à reproduire la structure du champ et à se différencier selon que les films sont davantage tournés vers la demande d'un assez large public ou vers un marché plus restreint. Donc on retrouve cette idée à l'échelle même des carrières et des trajectoires de réalisateurs. Et d'ailleurs, tu vas même plus loin, puisque tu dis que le jeu sur les positions distinctes dans le champ peuvent même se retrouver au sein d'un même film, en soulignant le cas des films qui, où il y a des versions différentes pour le marché états-unien et une version différente pour les marchés européens. Et ça me faisait penser juste à la question des stratégies de distributeurs qui, sur un même film, vont changer la fiche du film entre les États-Unis et la France. En fait, quand on fait des comparaisons, enfin, j'avais commencé à le faire, c'est hyper intéressant de voir justement comment ils peuvent jouer en fait de ces rapports différenciés au cinéma. Et, enfin, voilà. Et donc, cette notion de film polyphonique, elle te permet d'expliquer le paradoxe au moins apparent des réalisateurs commerciaux que je citais tout à l'heure, qui sont consacrés par la critique européenne. Et tu reviens ici longuement, enfin pour ceux que ça intéresse, voilà, dans ce chapitre, sur le cas de Hitchcock et sur notamment contre une analyse sociologique interactionniste. Tu soulignes que ce réalisateur a toujours cherché à la fois le succès, le succès commercial, mais aussi artistique, et que encore une fois, mais je l'ai dit plusieurs fois, ces films artistiques et commerciaux peuvent avoir des succès pour des raisons différentes. Et dans le même temps, tu rappelles que ça n'abolit pas pour autant les frontières entre populaire et savant. Alors, je me rends compte que j'ai atteint le temps et il me reste une dernière partie et des questions. Alors, ce que je vous propose, c'est que, à propos du dernier chapitre, le chapitre 4 sur les années, les transformations à partir des années 1970-80, d'une part, il me semble que c'est des choses qui sont quand même un peu plus connues, mais, enfin, en tout cas pour moi, voilà. Donc, il faudrait que j'arrive à le résumer rapidement. Je vais en dire juste quelques mots et puis je viendrai à mes questions et à ma dernière partie qui était plus courte de toute façon. Dans le dernier chapitre, tu reviens sur l'élargissement du marché élargi et le recul du marché restreint, avec notamment le développement du rôle des chaînes de télévision dans le financement du cinéma. Et tu as aussi toute une partie sur la question de la critique et du recul en fait de la critique légitime. Tu travailles plus particulièrement sur la presse écrite. Dans cette partie, tu reviens aussi sur la question donc de la modification de l'offre. Du côté des États-Unis, l'apparition donc des blockbusters, le développement donc des films événements, où on voit que par rapport au nouvel Hollywood, on a un recul d'une certaine manière, un recul en arrière. Et dans le même temps, tu dis que les choses ne sont pas si simples et qu'il y a des formes de continuité. Donc, tu cites l'exemple de la catégorie des blockbusters d'auteurs. Donc, en tout cas, à partir de ces années 80, une concentration croissante à Hollywood, un développement des complexes de salles qui sont aussi basés sur cette stratégie de saturation du marché. Et d'ailleurs, ces stratégies sont aussi reprises au sein du mouvement du cinéma indépendant aux États-Unis, qui se développe parallèlement autour du festival Sundance. Ce cinéma indépendant et qualifié d'indépendant aux États-Unis reprend aussi, importe aussi les logiques développées à Hollywood dans leur stratégie. Et ce développement des films événements et des stratégies de saturation du marché, évidemment, ça a des effets forts à l'échelle internationale et sur le marché européen, et aussi sur la manière dont se structurent les champs nationaux en Europe, notamment dans le cas de la France, où tu montres aussi l'accélération de la rotation des films dans les années 90-2000. Et où tu soulignes que les réalisateurs nouveaux arrivants face à cette évolution du marché ne vont plus avoir la possibilité de faire le même type de film que leurs aînés, et notamment de progressivement avancer au fil de leur carrière en partant de films à petit budget pour augmenter en termes de notoriété. Et donc tu soulignes qu'il y a c'est pas tant une disparition du milieu qu'un type de trajectoire au sein du cinéma qui n'est plus possible dans ces années-là. Donc modification de l'offre et dans le même temps modification de la demande. Bon là t'avais, enfin voilà, ça renvoie aussi à ton article qui était paru dans la revue Sociologie en 2011 sur l'offre et les goûts cinématographiques en France. Donc je vais pas développer, mais en gros tu soulignes que la logique de l'art pour l'art n'est plus centrale, qu'il y a une restauration du divertissement avec donc ces compagnies hollywoodiennes qui dominent économiquement, mais aussi un développement d'une culture moyenne. Et tu soulignes ici d'ailleurs le rôle de l'école qui aurait pris le relais par rapport au mouvement des ciné-clubs. Et ta démonstration hein, dans le même temps va contre la thèse de l'éclectisme, puisque tu soulignes que la distinction tend à prendre d'autres formes. Alors, pour conclure sur ta démonstration, les années 60-70, du coup, au final, elles apparaissent comme une exception, c'est-à-dire une période de rapprochement des pôles, mais qui en fait a aussi contribué à l'évolution globale depuis les années 1910 d'un durcissement de la bipolarité. Alors ici, je vais poser mes questions pour laisser du temps de discussion. Il me semble donc que la sociologie du cinéma que tu présentes, enfin c'est pas il me semble, c'est que tous les réalisateurs qui sont cités sont des hommes blancs. Et d'ailleurs la couverture de l'ouvrage est emblématique de ce point de vue-là, les frères Pathé à la conquête du monde. Alors on sait que de fait le champ cinématographique s'est féminisé très tardivement. Il y a des travaux sur cette question, mais donc ma question c'est est-ce que tu as à un moment donné voulu intégrer la question du genre, mais aussi la question des origines ethno-raciales des réalisateurs dans ton travail sur le champ cinématographique français et états-unien, notamment pour la période plus récente, même si évidemment ça pose aussi des questions de méthode. Et puis une remarque liée à cette première question, c'est que ton histoire, elle accorde une place vraiment centrale aux réalisateurs au détriment d'autres catégories d'acteurs. Je pense notamment aux distributeurs, mais aussi au travail de Romain Leclerc sur les exportateurs, sur les questions justement d'articulation entre champ national et champ international. Et du coup, autant tu permets de sociologiser des grands films et des grands réalisateurs qui ont pu être présentés de manière très différente, autant du coup, il y a une catégorie de films qui est moins aux deux pôles. Hein, quand je dis grands films et grands réalisateurs, c'est à la fois au pôle commercial et à la fois au pôle de l'art pour l'art. Mais du coup, les films moyens sont peut-être moins visibles. Voilà. Sur la question de la comparaison entre les espaces nationaux, j'avais une question un peu technique, donc je vais juste la dire très rapidement, mais sachant que je ne suis pas spécialiste des méthodes quantitatives et des ACM, mais en fait, je trouve, et tu le soulignes, ça pose vraiment problème de comparer un espace de réalisateur pour la France à un espace de film pour les États-Unis, et il me semble, est-ce que ça tend pas à renforcer justement l'opposition? Parce que quand tu travailles sur l'espace des réalisateurs, tu prends en compte le capital accumulé par ces réalisateurs, alors que quand tu travailles sur l'espace des films, du coup, tu travailles sur ces films, les caractéristiques des films, sachant qu'il y a moins de variables dans ton espace des films aux États-Unis qui sont prises en compte. Ça pose question, et juste dans le cadre de Travelling, on essaye de faire justement un espace des films français, et alors ça s'explique aussi par les choix qu'on a fait, etc., de rendre comme variable, enfin de prendre comme variable active des variables de production et pas de réception. Mais du coup, ça tend à relativiser un peu ton analyse, en tout cas pour les années 2000 sur lesquelles on travaille, enfin de 2000 à 2010. Et je me disais, voilà, est-ce que c'est pas aussi un effet de construction des espaces? Enfin, c'est une question qui reste ouverte, hein, parce qu'on se prend pas mal la tête sur ces... Voilà. Même si, de fait, nos résultats ne vont pas du tout contre ce que tu dis, au contraire, et qu'on s'appuie beaucoup sur ton article de ACT. J'avais une dernière question sur, dans cette histoire, cette sociologie du cinéma. C'est que le rôle de l'État, il est assez présent sur les chapitres 2 et 3, et je trouve qu'il tend un peu à l'être moins, même si tu l'évoques, sur la dernière période. Enfin, voilà, je ne sais pas si tu as enfin, des éléments là-dessus à donner. Alors, en guise de conclusion, pour aller vite, ma dernière partie s'appelait « Un manifeste pour une sociologie relationnelle des rapports de domination entre groupes sociaux ». Et donc, je vais le souligner très rapidement, autant c'est un ouvrage qui est vraiment hyper utile en sociologie de l'art et de la culture, autant c'est aussi un ouvrage qui me semble très important par sa portée plus générale. De fait, je trouve que ça permet vraiment de défendre l'intérêt d'une sociologie des champs qui est attentive aux rapports de domination donc, qui se jouent entre classes sociales, mais aussi entre fractions de classes sociales, parce que très souvent, tu insistes sur cette dimension, hein, tu le dis, page 269, je ne lis pas la citation, mais voilà, tu insistes sur cette importance des rapports de force entre les classes et les fractions de classes. Un point important dans cette sociologie des rapports de domination, c'est qu'ils sont analysés, et je trouve ça vraiment poussé très loin et très intéressant, sous l'angle des relations d'interdépendance entre les pôles. Enfin, c'était vraiment le sens de mon résumé, pas assez résumé, des différents chapitres, je suis désolée. Mais voilà, on voit bien cette importance des relations d'interdépendance entre les pôles et ce concept d'interdépendance qui est extrêmement important. En gros, un pôle n'existe qu'en lien avec l'autre, et des fois on a tendance un peu à l'oublier, à les essentialiser, donc je trouve que c'est un ouvrage très utile de ce point de vue-là. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est en lien aussi avec cette question que tu rappelles toujours au sein de cette pensée relationnelle, de cette sociologie relationnelle, toujours cette question des homologies à différentes échelles. Je n'ai pas le temps de développer, mais voilà, c'est aussi une des forces, je trouve, de l'ouvrage. Et donc, pour conclure, ma dernière question, en lien avec cette quatrième et dernière partie conclusive, lorsque tu évoques la position dominante des États-Unis dans le champ cinématographique international, tu fais à un moment donné, c'est page 69, puis il y a d'autres passages, tu fais allusion au cinéma japonais et au cinéma indien, en soulignant notamment qu'il y a aussi une influence des États-Unis sur le cinéma indien. Donc en gros, tu évoques aussi l'Iran, à un moment donné, le cas du cinéma iranien, mais quand même globalement, donc, cet ouvrage est centré sur les États-Unis et sur l'Europe, donc vraiment sur le cinéma occidental en fait au XXe siècle. Et donc je me demandais si tu avais des volontés de travailler sur des espaces cinématographiques hors Occident. Voilà, merci encore beaucoup en tout cas pour cet ouvrage.
Non, bah d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Puis merci beaucoup à Audrey d'avoir fait une lecture aussi attentive et sympathique du livre. J'ai peut-être commencé, j'espère pas avoir manqué des questions, pas les avoir. En fait, par la question sur ce que tu appelais le rapport à l'objet ou comment j'en étais venu à travailler sur le cinéma, etc., parce que ça va peut-être me permettre en même temps de répondre, juste peut-être de dire comment j'en suis venu à faire ce livre. Parce que je crois que ça va donner en tout cas des éléments par rapport à certaines questions que tu as posées. En fait, le point de départ, c'est l'article que j'avais fait, donc... dans Acte sur le cinéma français, donc qui est la base du premier chapitre du livre. Et en fait, je l'avais fait, c'est un petit peu un concours de circonstances. C'était pour le dire très vite, j'étais au comité de rédaction d'Acte, j'étais rentré, je pense, il y avait une demande de faire des numéros et il y a eu une réunion un jour où on a fait une liste de numéros qu'il faudrait faire. Et parmi eux, il y avait le cinéma qui était, je crois, d'après ce que j'avais compris, un projet qui avait été souvent lancé et qui n'avait jamais abouti. Il y avait eu un projet récemment qui avait été mené par, récemment à l'époque, par Yann Daré et Philippe Marie. Yann Daré avait des très gros problèmes de santé à cette époque-là. Et voilà, on a relancé, le numéro a été relancé, j'ai été... proposé parce que effectivement le cinéma m'intéressait aussi à titre personnel, mais comme membre interne du comité. Enfin bon, tu avais d'ailleurs été contacté. L'article, moi j'ai juste fait, c'est un gros investissement de coordonner un numéro d'acte. C'était un petit peu. Je me disais, autant si je peux essayer de faire un article, moi, pour ne serait-ce que justifier mon salaire au CNRS. Je plaisante un peu, mais c'est vrai que ce qui m'a conduit à faire, j'avais pas du tout, c'était pas un projet, et je crois que dans mon enfin je suis certain même, dans mon projet de recherche au CNRS, il n'y avait pas du tout le cinéma. Donc c'est voilà, il y a un côté. Et par contre, ce qui m'a vraiment intéressé, j'ai travaillé donc sur le journalisme économique avant, et il y a quelque chose que j'avais vraiment très envie de faire, et ce qui explique l'article en fait, c'est je voulais refaire une ACM, parce qu'il y avait des enjeux, j'en avais fait une sur le journalisme économique, qui était, bon, c'était un moment où, enfin bon, et j'avais réécrite à l'occasion, j'avais publié d'abord sous forme d'article, puis pour la thèse, puis sous forme de livre, je l'avais réécrite, il y avait des choses que je regrettais un petit peu d'avoir fait, j'avais envie d'en refaire une sur autre chose, pour refaire un peu mieux, enfin, voilà. Il y avait ça, et puis il y avait quelque chose qui m'amusait ou m'intéressait, enfin, je parle intellectuellement, c'était bon, d'essayer de faire tourner sur le cinéma ce modèle, enfin, des champs de production culturelle, de voir ce qu'il y avait. Et bon, j'ai été sensible enfin, à ce que tu as dit sur le... que c'était une analyse bon, bourdieusienne entre... enfin, en tout cas, c'est vrai que moi, je pense, j'ai assumé qu'il y a un côté... Oui, j'ai essayé de faire fonctionner le modèle sur un cas où il l'était relativement peu, le cinéma. Et oui, je pense que c'est, alors ça s'expose aux yeux de certains sociologues à faire de la répétition ou je sais pas quoi. Moi, je pense pas. Enfin, je pense que c'est utile de faire des cas supplémentaires, que le cinéma a des particularités, voilà, etc. Et voilà. Et après, en fait, je me suis retrouvé pris. Il y a quelque chose que j'ai pas pu faire dans le cadre de l'article et qui, je sais pas quand c'est venu exactement, mais sur comment dans cet univers-là où il y a des conditions économiques très fortes, il y a malgré tout des pratiques autonomes qui sont possibles. Et je trouvais que c'était une question qui était intéressante de façon générale. Y compris parce que c'est au même moment, j'étais engagé dans un autre numéro d'acte avec Johan Elbron sur la recherche. Et je pense que c'est une question. Voilà, on est dans des univers où l'autonomie. Alors, il y a des différences. Bon, on n'est pas du tout dans un univers comme le cinéma, mais je pense qu'il y a une tendance quand même générale à une forme d'économicisation, je ne sais pas, des univers culturels. Et je trouve que réfléchir à comment l'autonomie est possible malgré tout, enfin, comment on peut maintenir. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Je me disais, le cinéma, c'est une image grossie, voilà, pour le dire un peu, voilà, travailler sur Hitchcock, c'est peut-être intéressant pour savoir comment nous, on peut s'en sortir. Ben, si, il y a beaucoup de choses, évidemment, qui nous différencient d'Hitchcock, mais le problème est peut-être un peu le même. Comment, dans un univers où il y a des contraintes très externes, très fortes, on peut essayer, voilà, bon. Voilà. Et puis, je me suis aperçu que c'était en fait très dur à poser. Alors, je me suis dit, les biographies de cinéastes, c'est un très beau matériel pour ça. Il y a plein d'informations disponibles. Quand ils sont morts, en plus, il n'y a pas de problème à l'utilisation, à la publication. Et puis, il se trouve qu'en lisant les biographies, je me suis un peu laissé... Enfin, je me suis dit à un moment, mais c'est intéressant aussi de faire quelque chose sur le début du chant. Enfin, donc, le chapitre 2 est né de ça. Et ce que j'ai voulu faire sur les conditions économiques ou sociales de l'autonomie, quelque chose comme ça, j'ai jamais vraiment fait, sauf un peu dans le chapitre 3, et toute la partie, moi, que j'aime bien. Je pense qu'elle a plein de défauts d'un point de vue scolaire et tout ça. Moi, j'aime bien, j'ai une petite tendresse, en tout cas, pour les passages que tu as évoqués. J'étais très content aussi sur la mutualisation et les différentes échelles. Voilà, pour moi, c'est un résultat ou une analyse à laquelle je tiens, comment il y a une redistribution qui peut s'opérer à l'échelle d'un État. Dans le cas de la France, on a des mécanismes de ce type, à l'échelle de sociétés de production, à l'échelle de l'œuvre d'un cinéaste, à l'échelle, et même, oui, d'un film. Et la dernière partie, alors, c'était plus... le dernier chapitre, ça, c'est plus, en fait, à l'issue du chapitre 1, mais je me disais, c'est vrai qu'un problème des ACM, et ça, c'est que c'est des analyses très statiques, et que, ben oui, un champ, c'est une réalité dynamique, quoi. Enfin, on peut pas... l'article que j'avais fait, et ben, il y a simplement la contrainte aussi du nombre de signes, enfin, on peut pas... Et j'avais envie de faire quelque chose de plus dynamique. Bon, il se trouve, après, j'ai fait l'article de sociologie que tu as évoqué, plus sur les pratiques, mais bon, ça, c'était presque dans une autre logique initialement. Mais en fait, ce que j'ai voulu faire dans le chapitre 4, ben, moi, ce qui m'intéressait, c'était de dire, je trouve que c'est très dur de qu'est-ce qui se passe exactement à notre époque, enfin, dans un univers comme celui-là, sachant que bon, je pense qu'il y a beaucoup d'univers quand même qui connaissent des transformations assez analogues. Et je trouve que c'est très difficile. Alors on peut dire, bon, il y a une marchandisation, ou il y a une économicisation, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors il y a une bipolarisation, oui, et en même temps, mais c'est plus, ça peut être aussi un signe d'autonomie. Il y a des tas de textes de Bourdieu où on voit la bipolarisation désignée comme un facteur d'autonomie. Alors, je pense, c'est un peu bon, une idée que j'ai avancée timidement, c'était de dire, oui, mais il y a deux formes de bipolarisation. Disons que la bipolarisation aujourd'hui, elle est assez largement contrainte, enfin, elle est, de la part des agents du pôle restreint qui la subissent, elle a des inconvénients pour eux, bon, etc. Voilà, je pense que j'ai pas du tout résolu le problème, mais en fait, c'était, enfin, moi, ce qui m'intéressait dans le chapitre 4, c'était de poser cette question-là, comment on peut essayer de comprendre, dans le cadre d'un, enfin, des raisonnements en termes de champ, d'essayer de trouver quelque chose qui est plus fin que la marchandisation, et qui est aussi plus fin que l'autre, enfin, à mon avis, qui est un peu le pendant, qui est de dire non, enfin, de jouer un peu, c'est plus complexe que ça, ce qui est vrai, c'est plus complexe, et en même temps, quand on tombe là-dedans, c'est très facile de, voilà, sous prétexte de vouloir échapper à un marxisme grossier ou je sais pas quoi, ou de mettre l'accent sur un tout petit truc, une toute petite évolution qui... enfin, il y a des profits de distinction quoi, à faire ça, je pense, dans l'univers scientifique, mais c'est, bon, c'est compliqué parce qu'en même temps, ça fait oublier complètement que, oui, mais bon, les blockbusters, c'est vrai, c'est massif, enfin, c'est massif, en tout cas, il y a quand même des signes très objectifs qui se passent, qu'il y a des choses aujourd'hui, enfin, que l'État aujourd'hui est plus même qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Et en fait, le livre, je n'avais pas du tout au début l'idée enfin, quand j'ai commencé, donc en 2005 ou 2000, voilà, je n'avais pas du tout en tête l'idée de faire un livre. C'est beaucoup lié à l'HDR, parce qu'il y a un moment où je me suis aperçu simplement pour des raisons qu'il fallait que je me présente au concours DR rapidement, sinon on me dirait que je serais trop vieux. Bon. Voilà, enfin, c'est bon, la morphologie de la section faisait que les passages DR étaient avancés d'un coup. Bon, bref, et voilà. Et donc, de présenter, je m'étais un petit peu dispersé. Enfin, moi, j'ai pas, quand j'ai été recruté, j'ai pas pensé à l'HDR, j'ai pas organisé mon activité de recherche en fonction de l'HDR. Et du coup, quand on m'a dit, que l'idée de faire une HDR, c'est, je me suis dit, bon, il faut que je présente un mémoire original. Et c'était sur le cinéma que c'était le plus simple de faire. Et c'est ça qui a aussi beaucoup joué. J'ai essayé d'homogénéiser, ce qui n'était pas évident d'ailleurs, et j'ai pas mal réécrit après pour publier le livre. Mais voilà. Mais ça fait que le livre, c'est un peu une contrainte. Et puis, il faut aussi publier des livres de temps en temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a le cinéma au XXe siècle, c'était. Le titre n'est pas de moi, je n'avais pas de titre, ce qui n'est pas de bon titre, en tout cas j'en avais un, mais il était invendable à un éditeur. Mais en fait, pour moi, c'était juste, voilà, j'ai rassemblé, pour moi, ces quatre contributions, je ne sais pas si j'avais pu intituler à la limite le livre comme ça, mais je n'ai pas la notoriété pour le faire, et je pense que pas grand monde d'ailleurs peut le faire aujourd'hui sans doute. Mais à la limite, voilà, ces quatre contributions à une étude du champ cinématographique, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et ce n'est pas le cinéma, voilà. Le cinéma au XXe siècle, bon, l'éditeur a proposé ça, je me suis dit pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'il y a une démarche historique de fait, il faut assumer le... Mais voilà, je n'ai pas eu du tout ça, et qu'après, alors par exemple, par rapport à ta dernière question, oui, c'est absolument pas... c'est très très centré sur la France, même plus que l'Europe, la France, les États-Unis un peu, les relations franco-états-uniennes, et voilà, et tout le reste est absent, enfin, il y a des notations, mais c'est, voilà, l'ambition de faire une histoire du champ depuis, dans tous les pays et dans le monde entier, depuis, voilà, elle, c'était pas du tout la mienne, bon, voilà, alors j'ai un petit peu donné, fallait donner un peu d'unité au livre, donc j'ai trouvé ça, mais bon. Voilà, après, je vais essayer de répondre, je vais peut-être en oublier, mais, alors, l'analyse interne, oui, c'est vrai que je l'ai pas faite du tout. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, c'est après, plutôt peut-être vers la fin du livre, où je me suis dit, mais je ne fais pas du tout ça. Alors, je pense qu'en termes, si j'ai le programme de Bourdieu, enfin, en sociologie de l'art, où je pense que c'est très central, la science des œuvres, enfin, c'est beaucoup par rapport à une science des œuvres qu'il a développée. Voilà. Alors, je ne l'ai pas fait, je pense que peut-être je ne suis pas un littéraire de formation, enfin, où. Il y avait peut-être un peu au fond de moi l'idée de faire une sociologie un peu de jouer vraiment cette carte là et c'est vrai que j'ai pas l'analyse des œuvres, j'ai Voilà, c'est quelque chose qui ne m'est pas vraiment venu et je l'ai fait à minima, il y a quelques notations de temps en temps, mais pas beaucoup plus. Voilà. En même temps, voilà, après l'avoir fini, je me suis dit, déjà, j'aborde des trucs tellement différents que si j'avais rajouté en plus, ça aurait été... Mais voilà, mais c'est vrai que voilà, le livre ne contribue pas... enfin, oui, que ça aurait été intéressant qu'il y ait aussi un volet de science des œuvres, mais voilà, d'analyse interne des œuvres, mais je ne l'ai pas fait. Alors, sur la question sur les sources, alors, qu'est-ce que... alors, peut-être je vais répondre. Les sources du passé, alors les biographies, ça, je me suis amusé, j'ai beaucoup utilisé le matériel des biographies, des autobiographies, et voilà, j'ai trouvé que c'était simplement un matériel qui était très riche. Alors, ça biaise beaucoup, parce qu'évidemment, ce matériel-là est particulièrement disponible pour le haut des gens qui occupent des positions élevées. Voilà, mais j'ai trouvé, enfin, vraiment que c'est très riche, il y a des tas de données, voilà. Et alors là, j'en profite pour dire, j'ai un tout petit peu... mais pour moi, je pense qu'en fait, ça a été aussi important, malgré tout, le fait que je me suis mis à travailler sur le cinéma, c'est que j'avais envie... Bon, on verra, mais je pense pas que c'est... J'avais travaillé avant sur notamment le journalisme, j'ai fait aussi des choses sur la sécurité sociale, contemporain, et il y a quelque chose, enfin, qui, moi... Voilà, c'est des sujets un peu... bon, il y a des enjeux un peu politiques... Hein. Et pour le travail sociologique et la réception aussi, ça pose toute une... Il faut aussi aller un petit peu batailler, parce que dès qu'on le présente, voilà, il y a quelques jours, bon, c'était complètement anecdotique, mais j'en ai eu beaucoup d'épisodes comme ça. J'avais été présenté mon travail sur le journalisme, pourtant c'était une thèse. Bon, et voilà, je l'ai présenté, je me suis fait traiter de castriste, bon, ou accueillir... voilà, accueillir dans un lieu très académique, très universitaire, en me disant, alors aujourd'hui c'est à lutte finale, bon, ça va être, enfin, c'est voilà, il y a ça, il y a les problèmes de réception, qu'on est lu, qu'on a des retours, que dès qu'on publie un bout d'entretien qui ne plaît pas, moi j'avais beaucoup joué à carte statistique dans mon travail sur le journalisme, malgré ça il y avait un peu de matériel qualitatif, il y a un entretien qui a posé... Enfin, j'ai eu un échange de mails interminable avec, voilà. Bon, bref, je dis ça, c'est juste, bon, et puis il y a, et c'est vrai que c'était, il y avait, je pense qu'inconsciemment de ma part, il y a eu, bon, j'ai fait ça, j'ai eu la sécurité sociale aussi, où on se prend à chaque fois, alors il faut, à chaque fois qu'on fait une présentation, il y a quelqu'un pour, bon, qui arrive, et puis, mais quand même, vous pouvez pas dire ça, l'État est en faillite, et les générations, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants, etc. Bon, enfin, bref. Et c'est vrai que je pense que travailler sur le cinéma, et particulièrement peut-être le côté historique, pour moi, c'était un petit peu un petit repos. Parce que, voilà, Griffith, ça dérange pas grand monde. Et on peut, là, il n'y a pas de problème. On a la vie privée de Griffith ou de Chaplin. Bon, ce qui est intéressant, parce que, enfin, bon, les données, bon, c'est pas le... mais sociologiquement, ça peut être intéressant qu'on peut utiliser sans problème, alors que quand on utilise sur un journaliste vivant une donnée biographique beaucoup plus anodine que... voilà, c'est un gros problème. Donc voilà, je dis ça, mais c'est vrai que j'ai été, et puis j'ai trouvé, bon, voilà. Bon, ça, c'était pour les données sur le passé, ce qui n'était pas la question que tu posais. Sur la période récente, alors... en fait, c'est vrai, alors dans le fameux chapitre 4, enfin sur les transformations actuelles des dernières décennies, c'est vrai que j'ai trouvé que il y avait l'idée d'essayer de comprendre, enfin, quel était le principe, quoi, des transformations contemporaines, enfin d'essayer de formuler ça. Et le problème, c'est aussi de les documenter, et c'est très très difficile, parce que alors moi j'ai le sentiment qu'il y a à la fois beaucoup de données sur la période contemporaine, et je trouve pas tant que ça, enfin utilisable sociologiquement. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup d'indicateurs qui sont très administratifs, très frustres, et qui mélangent des tas de choses hétérogènes sociologiquement, quoi. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut en faire, enfin, voilà. Il y a le problème du travail dans le temps. Alors, bon, là, tu l'as cité en bien, mais je vais... par exemple, la petite série, enfin, le nombre d'entrées qu'ont fait, je crois que c'est les Palmes d'Or que j'ai prises.
Oui.
Au Festival de Cannes, enfin les films qui ont obtenu la Palme d'Or. Et c'est vrai que quand on fait ça sur une période assez longue, puisque ça, on peut avoir les données quasiment depuis l'ouverture du Festival de Cannes, donc 46, je crois, pour le premier. Bon, disons le début des années 50, on peut faire ça. Alors, on a une belle série, et puis c'est très net. On a une baisse. Les films, les Palmes d'Or font de moins en moins d'entrées. Et puis, dès qu'on... Alors là, pour le coup, c'est bien parce qu'on a un indicateur. Pour une fois, on a réussi vraiment à le documenter. Les données sont disponibles et sont à peu près fiables, bon, bien, même si on peut discuter du nombre d'entrées, enfin l'indicateur de l'enregistrement officiel du nombre d'entrées. Mais bon, on a quand même une tendance dont on peut se dire que voilà. Le problème, c'est après quand on interprète. C'est-à-dire, il y a aussi plein de choses. Alors, on a le chiffre brut, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le rapporter ? La fréquentation aussi a énormément baissé. Et c'est évident que si on. Pourquoi les palmes d'or des années 50 sont à. Ou du début des années 40, début des années 50 sont, je ne sais plus, à 2,5 millions d'entrées ? C'est. Voilà, enfin, que la fréquentation était incomparablement plus élevée qu'après. Et puis c'est aussi un peu troublant par rapport à l'idée qu'il y a un renversement dans les années 70 et 80, puisqu'on voit que c'est une tendance qui est beaucoup plus longue, qui a des origines plus anciennes. Et puis, dernière chose, on sait même la signification même de l'indicateur. C'est-à-dire le festival de Cannes aussi a changé. Il a changé et s'il y a eu une montée des logiques, on peut, bon, si on admet ça, une montée des logiques commerciales, etc., le festival de Cannes y a aussi répondu. Et ça, on sait que c'est vrai, il y a répondu. Par exemple, en développant à côté de la compétition officielle d'autres types, le marché du film d'abord, bon, toutes les projections, il y a aussi aujourd'hui régulièrement des projections de blockbusters, mais en dehors de la compétition. Donc on est aussi, voilà, c'est pas une banalité, mais on travaille sur. Enfin, c'est pas des êtres inertes quoi, auxquels on a affaire, c'est des agents sociaux, des institutions sociales qui répondent elles-mêmes aux transformations qu'on étudie. Donc, en fait, j'étais content d'avoir, de trouver ce petit indicateur. Et puis, alors, c'est tellement massif qu'on se dit quand même, ça veut dire que, enfin, il me semble. Moi, je me suis permis de dire si ça veut quand même dire quelque chose. Mais c'est vrai que dès qu'on réfléchit, ça devient très compliqué parce que l'indicateur brut, il n'a pas de sens peut-être tel quel. Voilà, enfin, il faut prendre plein d'autres choses. On est dans des espaces. La signification des indicateurs change dans le temps. Est-ce que c'est qu'une palme d'or change dans le temps voilà. Voilà. Et il y a quelque chose, alors là, bon, comme j'ai critiqué une chose, moi il y a quelque chose par contre dont j'étais assez content dans le quatrième chapitre, c'était de trouver, ça m'a, sur l'évolution des films à la télévision. Alors ça m'a emporté vers autre chose. Mais là, alors voilà, j'ai fait quelque chose, j'ai regardé à 4 années, 77, 87, 97, 2007, les films diffusés à la télévision sur les grandes chaînes. En renseignant quelques caractéristiques, alors c'est rudimentaire, mais j'ai fait voilà. Et j'ai été content parce que pour une fois, on arrive à faire apparaître quelque chose, une structure, une bipolarité. Et là, on la voit bien. Quoi. On voit qu'il y a une bipolarisation dans les chaînes de télévision. Voilà. Alors je passe aux autres questions. Les hommes blancs, etc. Alors ça, j'avoue, c'est je. j'ai pas du tout travaillé sur. C'est une question qu'on m'a posée dans un autre séminaire. J'ai pas du tout travaillé sur la variable ethnique. Le genre. Alors le genre, j'ai un tout petit peu. J'avais dans mon ACM évidemment la variable du genre. J'en avais beaucoup en fait, beaucoup plus que je n'en ai publié dans l'article ou dans le livre. Mais bon, faut bien faire des choix. Et ce qui était frappant, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était il y a 10 ans à un moment. C'était que les femmes étaient si on projetait simplement la variable homme-femme, les femmes étaient du côté du secteur de moins de capital que de plus, évidemment. Et en termes de structure du capital, vous étiez du côté du marché restreint très très nettement. C'est-à-dire la féminisation se fait par le marché restreint. Enfin, ça, je pense que. Voilà. Bon, il y a quelque chose, j'ajoute, j'hésite un petit peu à le dire, mais bon, mais. Je pense à la question du genre, bon, bref, c'est une. Mais voilà, enfin, dans le contexte, la question du. Il y a des travaux, bon, il y a. Enfin, sur. Très influencés par la problématique du genre, notamment sur la cinéphilie savante, bon, qui aujourd'hui a des résonances politiques, et je pense que c'est une question qui est, je trouve, vraiment intéressante, enfin, que. Mais voilà, moi je l'ai pas. J'ai pas travaillé dessus. Voilà. Bon, mon excuse quand même, c'est que c'est un milieu qui, sur les périodes, enfin en tout cas les périodes historiques sur lesquelles j'ai travaillé, est quand même objectivement très très masculin. Oui. Sur les. Voilà. Alors là, Ah si, oui, la place centrale aux réalisateurs, je ne sais pas si c'est une question... l'entrée sur les réalisateurs, alors... je mélange peut-être deux questions, mais c'est pas... Bon, c'est vrai que je pense que ça induit des biais. Est-ce qu'on aurait pu rentrer par d'autres catégories? Oui. Alors, même si moi, donc je réponds aussi, du coup ça va être un petit peu un élément, mais je vais y répondre aussi spécifiquement, mais à la question film ou réalisateur. Où est-ce qu'on peut rentrer par les films? Alors, moi, il y a quelque chose que j'avais fait, que j'ai pas publié non plus dans l'ACM, donc j'avais construit l'espace des réalisateurs en France. Il y avait quelque chose que j'avais fait, c'était, j'avais fait pour les acteurs, j'avais créé des variables à tourner ou non avec mes réalisateurs que j'avais en individu actif. Et donc j'avais, bon, dans le langage technique, en éléments supplémentaires, j'avais tel acteur, est-ce qu'il a tourné, oui ou non, avec tel réalisateur, et donc j'avais un point correspondant à Gérard Depardieu que j'avais dans mon espace des réalisateurs. J'avais fait aussi pour des techniciens, les directeurs de la photographie, j'avais fait dans Skello, et j'avais fait pour des sociétés de distribution, de production, est-ce que telle société avait travaillé avec mes réalisateurs, pareil. Bon, est-ce qu'on obtient, on peut obtenir de cette façon un espace des acteurs où on trouve qu'il y a des acteurs, Jean Reno, il est plutôt au pôle commercial, et je sais pas, Mathieu Amalric, il était plutôt au pôle, voilà. Bon, et ce que je veux dire, c'est qu'on réobtient des espaces du même type, voilà. Et moi, alors... Enfin, en fait, je me demande si l'entrée est si... je pense qu'elle n'est pas totalement neutre, et c'est évident que l'entrée par les réalisateurs, ça implique des choses, bon. Je ne suis pas convaincu qu'on arrive à des structures totalement différentes par d'autres entrées. Et ce que j'avais fait avec mes variables supplémentaires allait plutôt dans ce sens-là. Alors, sur les films et les réalisateurs... ce qui est drôle, c'est que quand je me souviens avoir été invité dans un séminaire à présenter mon article sur les réalisateurs, et là, des gens m'avaient dit, mais si tu avais fait sur les films, est-ce que ça n'aurait pas donné quelque chose d'autre? Donc, quand j'ai fait le cinéma américain, c'est l'une des choses. Je me suis dit, bon, ben là, je vais le faire sur les films. Mais maintenant, quand je le fais sur les films, on me dit, ah oui, mais si tu l'avais fait sur les films...
Non, c'est sur la question de la comparaison.
Oui, je comprends. Mais c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, je pense que c'est assez neutre, voilà. Mais
d'accord.
Effectivement, idéalement, il aurait fallu que je le fasse sur, que je le fasse sur les réalisateurs américains. Alors, pour être honnête, la raison pour laquelle, je l'ai fait, il y avait un tout petit peu ça de me dire, mais je vais varier, parce qu'effectivement, on m'avait dit, est-ce que si on le fait sur les films, on obtient autre chose? Alors bon, c'était peut-être pas forcément très intelligent de varier sur ce coup-là, puisque je changeais aussi de contexte. voilà, il y avait une question de temps. C'est vrai simplement que c'était plus l'analyse sur les États-Unis. C'est un complément. Ça m'a paru intéressant de le faire parce que je trouvais que sur le continuum, bon, j'essaie aussi de le présenter prudemment, de dire voilà, sur la base de ce que j'ai fait, il y a cette différence qui apparaît. Donc différence qui consiste à dire qu'en France il y a un continuum entre les deux pôles très marqué, alors qu'aux États-Unis il est nettement moins. Voilà, c'est une analyse qui est quand même beaucoup plus modeste, quoi. Enfin, il y avait un souhait, je savais que si je me mettais à reconstituer la même base, j'en prenais pour 6 mois, fallait quand même finir par publier quelque chose. Et je l'ai faite assez rapidement, et c'était plus rapide de le faire sur les films. Donc si je suis honnête, voilà ça. Voilà. Alors, est-ce que ça produit des biais? Est-ce que le fait que je ne fais pas apparaître de continuum tient au fait que j'ai pris des films dans le cas américain alors que j'ai pris des réalisateurs dans le cas français? Peut-être. Tu t'avances l'argument du capital accumulé. En fait, moi, il me semble que si on prenait, il faudrait le faire, mais que si on prenait des films dans le cas français, on aurait des films qui seraient en position intermédiaire, qui sont... on aurait un continuum de la même façon qu'on l'a pour les réalisateurs. Et donc, enfin, par rapport à ton argument sur le capital accumulé, j'aurais tendance à dire qu'il me semble que c'est pas le... que bien sûr, il y a cette différence-là que je prends, mais que c'est pas elle qui crée, que c'est pas le capital accumulé qui crée le continuum et qu'on l'aurait aussi avec des films. et que, voilà, dans le cas américain, je pense que j'ai l'impression que cette zone, que les réalisateurs qui sont dans une position un peu intermédiaire, qui seraient, je ne sais pas, les taverniers de... Enfin, le tavernier, c'est peut-être un très bon... Des Patrice Lecomte, puisque c'était lui qui apparaissait à l'époque au sommet. Est-ce qu'il y a un Patrice Lecomte américain? Voilà, enfin bon. Je réponds, je voulais pas du tout, quand j'ai plaisanté en disant, quand on me dit les films, les réalisateurs ont envie de faire les films, et puis, c'est juste que, sincèrement, j'ai le sentiment, je pense qu'il y a un choix, il y a un biais à travailler sur les réalisateurs, c'est évident, c'est pas neutre, etc. Je le dis, mais néanmoins, moi j'ai le sentiment que l'entrée dans, quand on construit ce type d'espace, que c'est assez neutre, que l'entrée en fait est assez neutre. Et j'avais le même sentiment sur les journalistes, enfin quand j'avais travaillé, parce qu'il y avait la possibilité de faire une ACM sur des journalistes ou de la faire sur les entreprises, les médias. Alors je pense que c'est pas tout à fait la même chose, mais je pense que la structure d'arrivée à laquelle on arrivait. Et après, par contre, c'est intéressant de savoir, parce que dans le cas des médias, c'est beaucoup plus facile de travailler sur les instituts, sur les médias, que sur les journalistes, de prendre. Et je pense que dans la même manière pour le cinéma, c'était plus facile de travailler sur les réalisateurs que par exemple les sociétés de production, et que ça, il faut se demander pourquoi. Mais voilà. Et je me souviens d'un article d'Annie Verger sur... parce qu'il n'y a pas eu tant de travaux que ça sur les champs artistiques qui utilisent ACM, et qu'Annie Verger faisait, elle disait de construire par le champ de l'art, par les artistes ou par les galeries, que ça conduit vraisemblablement à la même chose, mais bon, elle avait fait le choix pour une unité d'analyse des artistes. Mais voilà, moi j'ai plutôt tendance, je pense qu'elle a raison, effectivement. Mais voilà, ça reste une conviction et je prétends pas du tout terminer le débat. Voilà, pour terminer, je réponds. En fait, j'ai un peu répondu à la dernière question sur cinéma japonais, cinéma indien. Non, j'ai pas particulièrement l'intention de le faire. Mais par contre, j'ai tenu quand même, malgré tout, à ce qu'il y ait juste des petites notations, donc à la fin du premier chapitre, sur d'autres cinématographies, parce que l'une des... En fait, la question, moi, une question que je voulais poser, c'était juste de savoir, est-ce qu'il y a un espace international du cinéma? Est-ce que ça a un sens de parler de ça? Parce qu'effectivement, c'est tentant, on voit bien, la France est quelque chose de particulier. Je suis tombé, il y a une phrase, je cite, c'est juste deux mots, je suis tombé dessus par hasard, et je trouve qu'elle est sur le milieu des milieux, et je trouve que c'est un raisonnement vraiment quasiment en termes de champ. Et c'est vrai qu'on se pose forcément cette question-là, l'espace national est situé lui-même dans un espace, et voilà. Et en fait, il me semble, alors cet espace, première chose, statistiquement, est beaucoup plus difficile à construire, parce que là, on se heurte au fait que les données sont d'une hétérogénéité totale, même au sein de l'Europe, les données... les données européennes qui sont produites sont... Il y avait ça, il y avait de réfléchir un peu, parce qu'on dit des tas de choses, par exemple, sur le cinéma indien. Quand on regarde, oui, mais c'est pas vrai, l'hégémonie américaine, elle n'est pas... regardez l'Inde, par exemple. L'Inde, c'est une cinématographie très active, etc. Oui, mais elle exporte. Mais dès qu'on réfléchit et qu'on essaie de poser un peu le problème, on s'aperçoit que oui, elle exporte, mais elle exporte dans des zones géographiques très particulières. Le cinéma indien, il y a un lien, c'est historiquement... il y a Nemesis Roux qui travaille là-dessus, qui montre c'est historiquement lié au pays où il y a une diaspora. C'est géographiquement très lié. Le cinéma indien lui-même, il y a eu une influence hollywoodienne forte. Donc c'est pas comparable. On peut pas comparer l'Inde et les États-Unis. J'ai juste essayé. Et moi là, je pense qu'on peut parler d'espace international, mais que c'est quand même pas le même type d'espace. Qu'un espace national. C'est juste des éléments que je donne, mais je trouvais que c'était pas inintéressant, que c'était mieux que rien, que c'était de prendre des risques, mais tant pis. Je trouvais que c'était les petits passages que j'ai faits, je les fais dans cet esprit. Et il y a peut-être l'État sur lequel j'ai pas. Ouais, c'est vrai qu'il est moins présent dans la dernière période. Je pense qu'il y a eu un petit peu eu un effet. Les politistes, notamment, travaillent pas mal sur le cinéma. J'avais le sentiment qu'il y avait pas mal de travaux sur le cinéma et que du coup, c'était aussi intéressant. Le cinéma, il est, par exemple, quand j'ai fait la CM, ce qui est très frappant, c'est que l'intervention de l'État, elle se fait évidemment à travers, par exemple, l'avance sur recette, mais ça, on le voit, c'est quelque chose qui est visible et pas mal analysé. mais que l'État, il est aussi présent, enfin, c'est pas pour vous le dire, hein, c'est une... mais à travers, alors il y a les chaînes publiques, par exemple, l'opposition entre les deux pôles, c'est aussi l'opposition entre TF1 et Arte, quoi. Et puis avec, entre les deux, le public, avec la France 2, mais qui est une position intermédiaire, mais plutôt un peu commerciale, France 3 un peu une autre. Bon. Et l'État, il est aussi présent à travers aujourd'hui l'université, bon, qui joue un certain rôle. Voilà, et c'est vrai qu'il y avait un tout petit peu ça. Donc dans le chapitre 4, j'en traite un tout petit peu quand même en mentionnant qu'il y a la tentation un peu néolibérale qui n'a pas épargné la politique en matière de cinéma, avec cette idée... plutôt que d'aider les films plutôt de recherche, etc. Il faut soutenir les films qui affrontent la concurrence des blockbusters américains. Enfin, voilà, mais je le dis très très vite, mais c'est un tout petit peu présent quand même, enfin, voilà, pour dire que c'est pas totalement absent, c'est quand même un tout petit peu présent à travers les passages sur la télévision ou même à travers les passages sur... voilà, ce que je veux juste dire, après tout, si j'ai une chose un peu... Je pense que l'action de l'État, dans le cas du cinéma, elle est aussi présente dans les chaînes publiques, l'action de l'État...